vieux pas.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Aujourd'hui, pour animer cette émission, nous sommes quatre. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Pierre-Yves.
Salut à tous.
De Reynald.
Salut à toutes.
Et de Dominique.
Meilleurs vœux.
Vous êtes sur Radio Campus 106,6 en notre compagnie pour une heure où nous allons parler d'actualités geek et ludiques. Vous nous connaissez, on entame toujours l'émission en parlant de l'agenda. Et je vous propose de commencer tout de suite par un jeu qui est en Kickstarter et pas n'importe quel jeu, puisque nous l'avons testé il y a de ça quand même quelques années, il y a deux
je
ans.
Crois que c'est deux ans, puisqu'on les avait, on avait rencontré les auteurs au moment du Hammer Time.
Ils sont venus dans l'émission pour présenter leur univers qui était composé d'audiofilms. Et ils étaient en préparation d'un jeu de cartes qui était en bêta. Et cette fois-ci, ça y est, tout est finalisé. La mécanique du jeu est prête. C'est Tarakan Wars qui va faire son apparition très prochainement sur Kickstarter. On nous promet un projet qui démarre le 8 juin. Et si vous êtes fan de jeux tactiques, et notamment avec des cartes, où vous allez placer vos cartes et pouvoir attaquer les cartes qui sont adjacentes, et à la fin, celui qui a le plus de cartes remporte la partie. On peut dire ça assez simplement.
Le but, c'est d'avoir le plus de points à la fin avec des cartes qui restent encore visibles, enfin vivantes plutôt, sur le terrain. Un petit mélange de Othello et de placement de jeux de cartes, un peu la Magic. C'était très sympa.
Et on sent que graphiquement, il y a eu également de l'évolution. Hein, quand on voit les cartes avec lesquelles on a joué à l'époque et maintenant.
On voit les illustrations. À chaque fois qu'ils mettent des illustrations sur leur page Facebook, c'est très impressionnant.
Donc un projet qu'on soutient bien sûr dans l'émission et qu'on vous invite à suivre de très près.
Ça sera lancé le 8 juin, ben on verra bien à ce moment-là. La page n'est pas encore active, on peut suivre sur Kickstarter, mais pour l'instant il n'y a pas encore le détail des pages, des paliers, etc. On leur fait confiance.
Surtout qu'on parle du projet d'il y a deux ans, mais l'année dernière, ils étaient aussi de nouveau présents. On les avait interviewés et on avait passé l'interview lors de l'émission de l'année dernière. Donc n'hésitez pas aussi à remonter sur l'émission d'il y a un an pour voir les évolutions du projet. Et ils sont toujours à fond et le projet avait vraiment évolué. Les cartes ont été vraiment équilibrées. Le jeu promet d'être vraiment très très bon.
On n'hésitera pas à retenter quelques parties. Je suis sûr qu'on les recroisera sur d'autres salons puisqu'ils sont très actifs. Et notamment un projet qui est sur Kickstarter, notamment parce qu'il vise l'international ici. Hein. On voit les présentations qui sont également faites en anglais. Donc on voit très grand chez Arakan, et c'est tant mieux. Alors, vu qu'on parle d'un projet de jeu de société et de personnes qui nous ont rendu visite dans l'émission, on peut également parler d'un projet qui s'appelle Jurassic Cats. Un projet qui était présenté par Aurélien Esteve, qui est venu dans l'émission pour ce Kickstarter également. La bonne nouvelle de la journée, c'est qu'il est présent maintenant dans un catalogue de jeux de société chez Paille Édition et Distribution.
Paille Édition, c'est un éditeur qui existe depuis très longtemps, qui avait été créé par Yvan Renoux, tout seul dans son coin, qui avait fait son jeu, qui s'appelait Bacade, un jeu avec des cochons, qui promouvait une race de cochons de sa région. Il avait fait ça, puis il avait créé d'autres jeux, et au début, il éditait que ses propres jeux. Et ensuite, il a grandi un peu, il a édité d'autres auteurs, et c'est devenu un éditeur et un distributeur. Et il y a quelques années, il a revendu, il a décidé d'arrêter, il a pris sa retraite. Il a revendu sa boîte, qui est maintenant gérée par une équipe de 4 ou 5 personnes, et il continue à éditer des jeux, comme, je sais pas, Docteur Pilule, Bourpier. Enfin, c'est vraiment des petits jeux sympas, c'est pareil. Ils vont pas faire du gros jeu avec des boîtes remplies de figurines, mais ça correspond tout à fait à l'univers de Jurassic 4, c'est pas étonnant.
Et il y avait dernièrement un jeu qui s'appelait Ragnarok. Rock, feu sur l'univers musical, qui
rock
était
Roséka, bien sûr.
Voilà, qui avait l'air extrêmement sympathique également.
C'est des éditeurs pareils qu'on croise toujours aussi sur les salons en général. Très sympa.
Et Jurassic 4, une sorte de Bridge 2.0 où vous
Bridge
d'apéro, alliez.
Alors.
Et c'était également une bonne mécanique qui nous avait très plu à l'époque. Donc un projet que vous pouvez maintenant non plus soutenir, mais directement acheter chez Paille Édition. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre dans l'agenda ? On va rester dans l'univers du jeu de société avec un dossier qu'on a entamé la semaine dernière et qu'on va forcément continuer cette semaine et la semaine prochaine. La semaine dernière, nous avons parlé des nominés pour le Spiel, l'édition de 2021. On a parcouru tous les jeux de la catégorie enfants et cette fois-ci, on part pour l'édition grand public, donc l'édition famille.
On peut dire ça, ouais. Oui.
Trois nominés. Alors, on va tout de suite commencer par celui qui a déjà été évoqué dans l'émission, puisqu'il était présent pour l'As d'Or.
Il a gagné l'As d'Or.
Et oui, c'est Micro Macro Crime City. Or, on l'avait expliqué en détail. Je vous invite bien sûr à retrouver les podcasts de l'émission sur le site de Radio Campus ou sur notre site anotherpodcast.fr. En Micro Macro City, c'était une grosse enquête que vous allez mener sur une carte en noir et blanc remplie de dessins. Alors, c'est une carte qui dessine une grande ville. Ça fait un peu un Où est Charlie en noir et blanc.
C'est exactement ça. Je suis sûr, ouais. Sûr qu'il y a un Charlie en noir et blanc caché quelque part. Ouais. Ils l'ont pas animé.
Faut dire que la carte fait, pour donner une grandeur, on peut dire un A0, voire A0+. Au niveau taille de superficie, si tu veux l'afficher sur un mur ou la mettre sur une table, c'est vraiment une très très grande carte.
C'est bien d'avoir une loupe et puis une lampe à côté pour bien voir les détails, parce que parfois...
Est-ce qu'on peut la colorier ? Je ne sais pas si c'est prévu.
Je pense que ça a été mis dans le style coup, quand tu as fini les enquêtes et que tu as été chercher les enquêtes supplémentaires que tu peux trouver sur le net, sur le site et compagnie, tu peux demander à ton enfant ou même toi-même de commencer à colorier, pourquoi pas.
Or, sachant que je pense que peu de personnes l'ont fait jusqu'à présent, puisque comme il était en rupture de stock, c'était le bon moyen d'après de revendre.
Là, il est revenu, hein, parce que récemment, j'ai fait quelques boutiques et c'est un des jeux que j'ai le plus vu, mis en vitrine, mis en évidence.
Ouais, ce qui est bien, il n'y a pas besoin d'être un très grand joueur pour jouer. Hein. Une partie peut être quand même assez rapide. Vous jouez en famille, tout le monde ensemble, pour tous les âges. C'est vraiment, du coup, un bon jeu dans la catégorie famille.
Donc on va essayer de déceler des petits indices qui vont nous mener dans un parcours dans cette carte qui est extrêmement bien détaillée et super grande. Donc voilà, ça a beaucoup plu, notamment à l'As d'Or, puisqu'ils l'ont remporté.
Et logique, hein, j'ai fait jouer ce jeu à différents groupes, que ce soit à des amis adultes limite qui ont la cinquantaine. Ils ont torché pratiquement 4-5 enquêtes en une soirée, comme à un couple d'amis qui ont des enfants en bas âge, et ils sont restés scotchés toute la soirée alors qu'ils devaient juste tester une enquête et après continuer la soirée. Donc c'est vraiment un jeu qui paye pas de mine. Quand on l'explique, on se demande, bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Oui, pourquoi un Oui Charlie, pourquoi pas? Après on passe à autre chose. Puis en fin de compte, tu t'y prends et c'est un excellent petit jeu.
C'est un jeu qui coûte quoi? Il coûte entre 18 et 20 euros, pas plus?
Moi, je dirais entre plus 20 et 25.
Parce qu'il y a, ouais, j'aurais dit plutôt 25. Ce qui est bien, c'est que les enquêtes se complexifient au fur et à mesure. Donc ça, c'est aussi ça qui prend goût. Le temps qu'on trouve, après on prend des automatismes. Et du coup, les enquêtes s'allongent un peu. En vous demandant de trouver plus de détails, plus d'explications sur le dessin.
Alors, d'autres jeux, il en reste deux. Le deuxième s'appelle Zombie Teens Evolution. Alors on pourrait croire que ce jeu fait partie de la catégorie enfant. En fait, pas vraiment.
C'est la catégorie teens.
C'est ça, adolescent.
Non, tu peux y jouer avec des petits, quoi. C'est la suite de Zombie Kids, qui avait énormément marché. Je ne sais plus s'il avait eu des prix, c'est pas impossible. Moi, je l'ai acheté, je l'ai fait jouer à plein de personnes. Et c'est un jeu de ce qu'on appelle un jeu Legacy, mais vraiment, c'est de l'introduction Legacy. C'est-à-dire que dans le jeu, le jeu est très très simple. Hein, c'est un petit jeu coopératif qui se passe dans une école. C'est très amusant, on chasse des zombies. Et les personnages évoluent, c'est-à-dire que chaque fois que tu atteins un certain palier, bah, tu as une 15, une 12, 13 enveloppes dans le jeu, des plus petites, des plus grandes, et tu ouvres une enveloppe, et dedans, il y a, je vais à peine spoiler, il y a par exemple un nouveau personnage, ou un nouveau pouvoir, ou des nouveaux zombies, etc. Et ça rajoute, et tu peux recommencer le jeu plusieurs fois, il y a des objectifs, il y a genre gagner 3 parties de suite, ou, etc. Et c'est un jeu qui est très sympa à jouer, les gens en général rejouent, et puis ils demandent souvent, quand je les revois plein, est-ce que t'as ramené le jeu avec les zombies, on va refaire des parties. Et des fois, on joue simplement avec les règles de base et puis on redécouvre le jeu, c'est vraiment pas mal.
Ouais, dans Zombie Kids, tu devais sauver l'école. Et là, dans celui-ci, on considère que c'est la suite. Donc, l'école a été sauvée. Il faut sauver la ville.
Alors, c'est à partir de 8 ans, ça joue de 2 à 4 joueurs. Bien sûr, ici, dans l'évolution, on va pas perdre un bras au cours de l'aventure. Ça reste quand même enfantin, je suppose.
Oui, bien sûr. C'est vraiment très familial.
Alors, c'est quoi justement la mécanique?
Au début de ton tour, en fait, tu lances un dé pour savoir comment les zombies bougent, ou parfois ça peut créer des événements spéciaux. Et après, tu as deux actions à réaliser, donc pour déplacer tes personnages, attaquer et autres. Le but du jeu étant de trouver quatre éléments d'antidote pour du coup soigner la ville.
Et qui bizarrement se trouve dans les quatre pièces de la ville, chaque élément dans une pièce, et tu gagnes si tu l'as. Les quatre éléments sont arrivés dans l'école, donc tu peux avoir les quatre éléments, créer l'antidote, ou alors les zombies ont infesté les quatre pièces de la ville, et là, tu perds. Donc c'est un jeu coopératif, soit tu gagnes parce que tu as eu l'antidote, enfin tu as réussi à construire l'antidote, soit tu perds parce que toute la ville a été infestée.
On peut très bien jouer au deuxième sans aux zombies kids sans avoir joué à Zombie Teens et inversement, c'est des jeux...
Ouais, complètement.
Tu peux peut-être les enchaîner, mais bon...
En sachant, pardon, c'est un peu un jeu d'escalade, dans le sens où, donc au début, les zombies bougent. Après, ils vont commencer à envahir un bâtiment. Et si jamais tu ne réagis pas assez vite, dès que ce zombie doit rebouger, tout de suite d'un bâtiment, il saute à un autre bâtiment. Et donc, ça peut aller très très vite, en fait. Donc, faut jamais se laisser dominer par le jeu. À un moment, faut toujours se dire, bon, stop, là, faut absolument que je me débarrasse des zombies, parce qu'autrement, très vite, je vais être dans une situation impossible à résoudre.
Et tu vois, ça se fait là quand on parle, on dit ouais, faut attaquer les zombies, il faut les détruire. Enfin, mais en fait, ça se fait basiquement et très simplement où tu te mets sur la case et tu fais l'action d'attaquer les zombies et hop, on les retire. Point. C'est vraiment un jeu qui est pas simpliste, mais dont les règles s'approprient très vite. Et après, c'est juste calculer les bonnes actions à faire pour ne pas perdre la partie. En plus, c'est le genre de jeu vraiment qu'on peut appeler familial, parce que quand tu as un jeu, on va dire pour enfants, que tu joues en famille, les parents, généralement, ils se disent « Bon, allez, on va lui faire plaisir, on va faire une partie une fois. » Mais les adultes auront fait le tour, ils vont dire « Bon, t'es gentil, mais moi j'ai autre chose à faire, va essayer de trouver quelqu'un d'autre à jouer avec ton jeu. » Là, comme le jeu évolue, l'adulte sera aussi tenté de voir comment le jeu évolue, quels sont les petits trucs en plus. C'est la base pour un jeu familial qui est toujours avoir un intérêt pour les joueurs, qu'ils soient adultes ou enfants.
Ce qui est bien, c'est que même quand tu as fini, tu peux quand même recommencer, bah, comme disait Dominique, avec les règles de base ou faire des variantes.
Allez, je vous propose, avant d'attaquer le dernier jeu, de s'écouter un peu de musique. Alors, on a beaucoup d'albums qui nous sont arrivés, à certains qui datent à peine de quelques jours. Alors, est-ce qu'on commence tout de suite parce que nous a ramené Pierre-Yves et que fébrilement, on n'ose pas mettre... dans la platine.
On a plein de choses dans le casier de l'émission que tout le monde nous refourgue en CD en disant ils vont les passer pendant l'émission. Et Pierre-Yves nous en rajoute encore pour dire il y a encore ça en plus. Merci Pierre-Yves. Ouais,
j'ai sélectionné moi.
Même notre distributeur ne nous les ramène pas ces CD.
J'étais un peu sceptique en fait. Puis en écoutant l'album, je me dis finalement j'aime bien cette chanson. Donc,
Cette chanson en particulier ou l'album?
Alors. J'ai écouté un peu toutes les chansons, j'étais pas forcément fan de toutes les chansons, mais celle-ci, je trouve qu'elle est sympa à écouter.
Alors, cet album imposé par Pierre-Yves est de Gérard Lanvin.
L'acteur, précise bien, pour être sûr.
Alors, l'album s'appelle Ici-bas.
En fait, il faut savoir que Gérard Lanvin, il a un fils qui est chanteur, qui joue dans un groupe de rock, de blues, etc., qui est bien plutôt connu, qui a joué avec des grands bluesmen américains et compagnie. Et il a un autre fils qui est animateur radio et DJ, lui. Donc, la chanson, c'est un truc qui tourne dans la famille. Et c'est pendant le confinement que son fils, Manu Lanvin, lui a proposé de faire de la musique ensemble, quoi. Et c'est comme ça que c'est venu. Donc, le fils a composé la musique. Le père, donc, Gérard Lanvin, a écrit les paroles. Et c'est lui qui s'est mis au chant.
Après, c'est vrai que sur certaines chansons, on a l'impression qu'il parle plus qu'il ne chante.
J'étais surpris quand j'ai entendu ça. J'ai cru une blague, personnellement.
Après Gad Elmaleh, ça laisse la porte ouverte à tout le monde pour faire quelque chose de mieux.
C'est terrible, oui.
On va s'écouter Gérard Lanvin avec une chanson qui a particulièrement plu à Pierre-Yves qui s'appelle « Ce monde imposé ».
Fatigué de me trouver dans ce monde connecté où plus rien ni personne ne peut nous échapper. Plus de secrets, plus une ombre, pas plus d'intimité. Faut-il s'en réjouir ou bien s'en inquiéter? Comment vivre et rêver dans ce monde imposé? Je cherche la lumière dans ce monde connecté. Je supporte la pression, la terreur et les cons. C'est un poids bien pesant que ces menaces indéterminées qui nous tiennent par la peur pour mieux nous diviser. Comment vivre et aimer dans ce monde imposé? cherche une raison d'espérer dans ce monde surveillé. Comment vivre et aimer? Donne-moi une raison d'y arriver. Malgré les guerres, les intérêts et les atrocités. Aimer les autres, oui, et bien plus que jamais. Et continuer à se révolter contre barbarie, bêtises et PIB. Comment vivre et rêver dans ce monde divisé? Cherche une raison d'espérer dans ce monde imposé.
Vous êtes toujours sur Radio Campus 106,6 FM et DAB+, ou vous nous écoutez peut-être sur notre site internet campuslille.com. C'était Gérard Lanvin avec ce monde imposé par Pierre-Yves.
Il y a un petit air de Renaud aussi, je trouve.
C'est pas très sympa ça, par contre. Le pauvre, il se lance dans la musique et toi, tu le détruis direct.
Non, mais au niveau de la voix, des paroles, la manière de chanter, ouais.
Mais c'est vrai que Gérard Lanvin, c'est un mec qui a toujours ouvert sa gueule, qui, quand il est en interview, il parle de tout, de la société, de politique, de la vie en général, mais il, je pense pas, à ma connaissance, qu'il ait écrit ou réalisé un film. Peut-être que c'est, ça l'intéresse pas, ou ça prend trop de temps, ou ça coûte trop cher, donc réaliser un film, surtout qu'effectivement, il a des fils qui sont dans la musique, donc pourquoi pas.
On enchaîne avec la sélection du Spiel de Jarès, avec...
Alors, je voudrais juste, qu'on comprenne tous les excuses aux Allemands, Spiel des Jahres. Bon, je dis très mal, mais bon, bref. T'as fait l'allemand première langue, hein, c'est ça?
Non, cinquième. Oui. On enchaîne avec ce festival, Pierre-Yves, qui s'appelle? Avec le troisième jeu, cette fois-ci grand public, un jeu de Michael Menzel, et ça s'appelle Les Aventures de Robin Hood. Encore un jeu qui va nous parler de Robin des Bois, mais cette fois-ci avec une mécanique complètement différente. On est un peu embêté puisque le jeu est actuellement présent en Allemagne et n'a pas encore vraiment été traduit ni diffusé à grande ampleur. Ce qui fait qu'on a une certaine vue rapide de la mécanique et du plateau. On part ici sur un jeu un peu d'aventure où on va se balader sur un plateau mais d'une façon un peu innovante puisque rien n'est vraiment tracé. Le plateau est évolutif.
Est-ce qu'il y a des zombies ?
Non.
Bah, au début du jeu, il n'y en a pas. Il y en a peut-être après, mais en tout cas, non. Et Robin des Bois va devoir se battre, alors oui, contre le prince Jean, donc dans la communauté de Sherwood. Et comme tu le disais, au début, le plateau il est plutôt vierge au fur et à mesure des actions. Donc on va découvrir des nouveaux lieux, finalement, sur ce plateau. Et c'est aussi un peu un mode legacy, c'est-à-dire que d'une partie à l'autre, on peut sauvegarder, en fait, et finalement reprendre la partie, en reprenant, donc, du coup... où on l'avait arrêté avant, et puis en remettant donc les éléments sur le plateau.
et le plateau ressemble un peu à une sorte de calendrier de l'Avent avec des chocolats. Vous allez pouvoir ouvrir certaines cases. Alors cette fois-ci, il n'y aura rien à manger à l'intérieur, mais vous allez pouvoir mettre des choses qui vont plus ou moins égayer la partie et la rendre différente.
Alors c'est bien un jeu coopératif hein, pour 2 à 4 joueurs. Bon, on considère que c'est environ une heure de partie. C'est le même auteur que celui qui a fait Andorre. Donc si vous avez aimé Andorre, bon, je pense que vous devriez aimer celui-ci sans trop de soucis.
Est-ce que c'est un jeu à épisodes ?
Oui, de mémoire, il y en a 7. Et puis en fonction de tes choix, du coup, tu as des branches différentes en fonction de tes choix, de tes décisions. Hein. Tu as des embranchements différents. Par contre, quand tu as fini le jeu, tu ne peux pas, comme dans Shatterstone, tu ne peux pas continuer à jouer sur le dernier niveau, en fait. Par contre, tu peux recommencer depuis le début. Et là, du coup, en faisant des choix différents et puis en partant sur d'autres embranchements.
En jeu, ça sera aux alentours de 50 euros.
Ouais, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que quand on fait un scénario, on a un certain nombre de rounds pour finir le scénario. Ce nombre de rounds pouvant être altéré, modifié par des événements qui arrivent en cours de jeu. Et si vous perdez le scénario, vous pouvez donc recommencer le même scénario, mais ce coup-ci un peu modifié, des passages un petit peu différents. Ça redonne un peu de rejouabilité pour un scénario que vous avez déjà joué en partie.
Alors on continuera la semaine prochaine l'édition, cette fois-ci expert. Et je vous propose, avant de se réécouter un peu de musique, de parler d'un autre point sur l'agenda, et cette fois-ci dans le jeu vidéo. Alors beaucoup de personnes ont quitté le 3, mais il y a quand même des personnes qui restent. Et dernièrement, on a cité Bethesda, qui avait été racheté par Microsoft. Alors Microsoft, ayant eu la validation de l'Union européenne, s'est dépêché de communiquer et d'inscrire à l'E3 une conférence, cette fois-ci commune, où ils vont présenter les jeux futurs à sortir, et notamment qui seront présents au catalogue du Xbox Game Pass. Je pense que sans surprise, on va attendre du Elder Scrolls 6, qui a quand même été assez teasé précédemment. D'autres jeux ? Diablo peut-être ?
En fait, ils ont racheté Bethesda, mais pas que. Ils ont la boîte qui s'appelle ZeniMax Studio, où une très grosse partie du catalogue Bethesda va se retrouver sur le Game Pass de Microsoft. Il y a les Fallout, les Rage, Wolfenstein, les Elder Scrolls, dont le MMO, donc Dishonored, Elder Scrolls Online, les Doom et les Dishonored.
Ça fait une sacrée liste et surtout de jeux assez réputés dans le domaine. On en parle souvent de cette guerre qui est menée ici sur des passes de jeux vidéo et même sur des plateformes. Hein. On parle souvent d'Epic Games. Ah, ici, on a le Xbox Game Pass. Et dans l'aventure, prochainement, on va avoir un ténor, mais cette fois-ci de la vidéo on demand. C'est Netflix qui va se lancer dans l'aventure du jeu vidéo. Alors, on commence à avoir quelques pistes à ce niveau-là. Et ils vont profiter d'avoir plusieurs franchises, et notamment celle du Witcher hein, qu'on a eu récemment, pour ouvrir un catalogue de jeux. Alors on nous promet, on nous tease une sorte de Apple Arcade.
Ils vont pas les développer eux-mêmes. Ils vont simplement les proposer en abonnement. Enfin,
ils parlent d'une centaine de jeux pour environ 5 euros par mois.
Donc tu peux dire les 99 jeux pourris, il y aura un jeu bon, c'est ça?
Beaucoup de jeux indés. Alors bon, des jeux indés, il peut y en avoir des biens, mais forcément ce sera pas des gros gros jeux.
C'est comme les séries, je veux dire, il y a je sais pas combien de centaines ou milliers de séries, documentaires et films sur Netflix, mais si tu regardes vraiment ce qui vaut le coup.
Et je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui font ça. Ils se focusent sur un produit, donc ici c'était le produit de la vidéo. Et une fois qu'ils sont arrivés au bout, qu'ils ont vraiment tiré le filon de tous les côtés, hein, parce qu'on fait les films, on fait la série, on fait les documentaires. Maintenant ils ont carrément écrasé l'univers du cinéma, puisque avec la fermeture des cinémas pendant plusieurs mois, eux en ont profité largement. Et maintenant qu'ils sont arrivés un peu au bout, sur quel filon on va tirer? Il y a ce filon du jeu vidéo qui a l'air de bien fonctionner pour certains. Après, ça va pas être facile, puisqu'il y a des gens qui sont quand même bien ancrés depuis plusieurs années là-dessus, à travailler le domaine. Est-ce que ça risque de pas être casse-gueule pour Netflix de faire un service à 5 euros pour 100 jeux, dont des indés?
C'est 10 fois trop cher.
Après, il faut qu'ils essayent justement, parce que ils ont déjà l'expérience de la création de séries ou de séries animées, comme là récemment, il y a les derniers épisodes de Castlevania, la série animée sur l'univers de Dracula avec les Balmonds et compagnie. ils savent s'ils ont de la demande ou non, quels que soient les différents pays sur lesquels c'est diffusé. Ils voient ce qui marche, ce qui fonctionne pas, et derrière, pourquoi pas là, mettre les jeux en avant. Ça marchera.
Mais ça sera sur quelle plateforme, hein, parce que est-ce que ça sera une espèce de shadow gaming? Tu pourras jouer au jeu sur ta télé?
C'est pas précisé.
Mais eux ont indiqué que les gens s'intéressaient énormément aux films interactifs, où ils pouvaient avoir des décisions dans l'épisode pour faire évoluer l'aventure. Donc peut-être qu'on va se retrouver à jouer avec sa télécommande.
Ouais.
On n'y croit pas trop. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'ils n'ont pas fait comme Amazon, puisque Amazon Prime est un service gratuit en plus du service.
Tu payes ton abonnement Amazon, donc tu as tous les services Amazon, plus la télé, etc. Plus les livres, je ne sais plus ce qu'il y a sur Amazon.
Moi, j'aurais imaginé, donc, si vous aviez l'offre Netflix en 4K, donc la plus chère.
C'est la 10 euros par mois, c'est ça?
Celle d'avoir le pass jeux vidéo intégré, ce qui motiverait peut-être les gens.
C'est ça qu'il va voir. Les gens qui ont déjà Netflix, pour les... est-ce qu'ils vont devoir payer en plus ou pas?
Tu dis ça parce que tu as l'abonnement Netflix 4K, François, c'est ça?
Et ce n'est pas du tout pour partager mon compte avec d'autres personnes, je vous rassure, hein, tout de suite. Alors, est-ce qu'on s'écouterait pas un peu de musique à nouveau? Dans cette pile d'albums, cette fois-ci, on a tout style de musique. Et nous, on va se lancer avec The Blackberry Smoke, qui sort un nouvel album, qui est sorti il y a quelques jours. C'est un groupe de rock qui nous vient des États-Unis, du sud des États-Unis, et Atlanta, en Géorgie. Et il s'inspire du bluegrass, du blues et de la musique country. Vous allez pouvoir écouter ça sur le titre qui s'appelle All Rise Again, un feat avec Warren Haynes.
We know.
C'était Blackberry Smoke sur l'album You Hear Georgia. C'était le titre avec un feat de Warren Haynes qui s'appelait All Rise Again. Alors, on parlait de Netflix et de séries tout à l'heure. Alors, on peut le citer puisque c'est une série française. On a pu voir quelques épisodes et cette série s'appelle Plan B, une des rares séries françaises de science-fiction.
Si on n'avait pas eu depuis très longtemps. Ça remonte aux années 70, celle dont je me souviens. L'héroïne, qui s'appelle Florence, qui est jouée par Julie Debonin, est animatrice radio. Ouais, c'est trop bien. Donc c'est marrant, on voit les pères. Elle a une fille de 16 ans. Elle a un fils et une fille de 16 ans. Et sa fille, un jour, elle rentre chez elle et sa fille s'est suicidée avec des médicaments. Je crois quelque chose comme ça. Elle est complètement dévastée. Enfin, bon, c'est le gros de l'épisode, je crois, un épisode doit faire. En gros, sur une heure, on a 50 minutes, et c'est vers la fin qu'il y a l'élément un peu fantastique qui rentre. Il y a une femme dans la rue qui l'aborde et qui lui explique qu'elle a la possibilité de revoir sa fille, de la sauver, grâce à une agence qui s'appelle Plan B. Elle y croit pas trop, mais l'autre personne lui donne la preuve que le voyage dans le temps, enfin, qu'elle a des informations du futur, donc c'est étonnant. Elle appelle, elle paye 12 500 €, un truc comme ça, et le lendemain, elle reçoit une petite boîte avec une pilule à prendre, et elle est instantanément téléportée dans le passé, et elle retrouve sa fille, et le premier épisode se termine comme ça. Donc il y a eu 4 épisodes pour l'instant diffusés sur TF1. C'est intéressant parce que c'est de la science-fiction, mais c'est vraiment le côté humain derrière, les sentiments qui sont mis avant, quoi, en avant. Donc c'est une vision intéressante. Donc j'ai pas encore vu les autres épisodes, mais je vais jeter un coup d'œil.
Alors toujours en France, et cette fois-ci c'est un film de science-fiction qui s'appelle Le Dernier Voyage. Alors c'est un film qui vient de sortir dans les salles de Romain Quirot. Alors je sais pas si vous avez pu voir ça. Ça parle d'un astronaute qui a déserté un peu son métier, qui est rappelé par son père. Alors ici, qui est joué par Jean Reno. Et Jean Reno qui joue un peu un personnage inspiré d'Elon Musk. Et je suis content d'avoir réussi à citer Elon Musk pour cette émission.
Et Jean Reno, magnifique.
Sans parler de SpaceX.
Eh ben voilà, c'est parti. On va repartir sur la crypto-monnaie, c'est terrible. Encore de la science-fiction française.
Il y en a un troisième, alors c'est sur Netflix, si je ne dis pas de bêtises, mais Alexandre Aja, qui est un réalisateur français qui a fait des gros films aux États-Unis, il est revenu un peu, il a fait un film très simple qui s'appelle Oxygène, avec une actrice dont j'ai complètement oublié le nom, mais c'est pas grave, c'est une actrice connue, et en fait, on voit qu'elle, elle est enfermée dans une espèce de cocon, enfin de je ne vais pas dire de cercueil, parce que j'ai pas
vu. C'est Mélanie Laurent, l'actrice.
Mélanie Laurent, voilà. Elle est enfermée dans une espèce de capsule spatiale, quoi. Elle est toute seule, elle se réveille, alors qu'elle parle avec une espèce d'intelligence artificielle qui contrôle un peu la capsule. Je dis capsule, mais je sais même pas ce que c'est. Et elle va devoir suivre, donc c'est peut-être pas en temps réel, mais Oxygène, ça porte bien son nom, donc j'imagine que l'oxygène va se raréfier. Ah, c'est bien sur Netflix, hein, c'est ça?
Absolument. C'est une série de science-fiction. Il y a 4-5 minutes d'images spatiales qui sont vraiment excellentes. Et tout le reste est filmé. Alors, pour le coup, là, c'est du super confinement dans une petite boîte. On est bien oppressé, un peu comme l'actrice ici. C'est quand même un peu long de filmer autant d'actions dans une si petite capsule. J'aurais préféré les 5 minutes d'espace et ne pas avoir tout le reste. Après, c'est mon avis personnel. Bon, on respire pas forcément la joie de vivre en sortant de ce film.
C'est le but, hein.
Justement, si tu veux te marrer un peu plus, comme série française, alors bon, c'est science-fiction si on veut, mais on en a déjà parlé, c'était la série OVNI. Après, alors plus récemment, bon, c'est pas que français non plus, vu que c'est américain et anglais, mais il y a la série La Guerre des Mondes, donc en deux saisons, et la deuxième saison vient de sortir, avec Gabriel Byrne, donc acteur américain, ou anglais, enfin anglophone on va dire. Et aussi, par exemple, Léa Drucker, donc, pour le côté plus français.
Je crois que c'est une nouvelle adaptation du livre de H.G. Wells, mais apparemment, c'est un peu plus fidèle, quoi, parce que autant le film avec Tom Cruise ou ce genre de. Ou les autres séries qu'il y avait eu, c'était vraiment une adaptation, on dit une transposition. Et là, apparemment, ça revient un petit peu à l'histoire originale. Parce que l'adaptation la plus connue, c'était celle avec Orson Welles, qu'il avait adaptée à la radio. Il y a des gens qui avaient vraiment cru qu'il y avait une invasion d'extraterrestres en écoutant la radio. Mais en fait, c'est un livre qui a été écrit au 19e siècle, hein, je ne sais plus, aux alentours de 1870, quelque chose comme ça. Donc c'est très, très ancien comme principe.
Après, il y avait une autre série pareille, française. Alors, je ne sais pas si c'est que français, mais en tout cas, c'est la série Mission. Et c'est des expéditions qui doivent aller sur Mars. Donc, ils sont financés par des milliardaires français. enfin, quand on parle justement de, d'Elon Musk et compagnie, Jeff Bezos pour aller sur la Lune, Mars et encore au-delà, c'est vrai que là dans le film, en fait, les gens, même s'ils sont philanthropes, ceux qui financent, ils le font aussi pour rester dans l'histoire, pour que leur nom reste dans l'histoire. Et bon, du coup, ça fait pas mal d'analogies justement un peu avec des personnes comme Elon Musk ou Jeff Bezos.
On ne recitera pas.
Voilà.
Et est-ce qu'il y a un nouveau challenge de citer Jeff Bezos en collaboration avec Elon Musk ?
Moi, je suis d'accord parce que je suis en train de me créer un bingo de ce qu'on doit dire dans l'émission. Et là, avec Elon Musk, Bitcoin et compagnie, j'ai déjà bu 3 verres.
Très bien. Alors, est-ce qu'on reste dans la science-fiction si on vous parle de C-Hub ? Bon, c'est plus ici pour la communauté scientifique.
C'est de la science, en réalité, c'est pas de la fiction, justement. Oui, on en avait parlé, c'est une jeune femme d'origine à Azerbaïdjan, je ne sais plus de où elle est, et puis elle avait monté un site où elle leakait des parutions scientifiques, et son site qui s'appelait donc C-Hub, C-I-Hub, je ne vais pas dire l'extension parce que ça changeait régulièrement, avait été interdit, banni dans certains pays, etc. Et il y a toujours des gens qui sont là, surtout sur Reddit, normalement, pour sauver le soldat C-Hub, qu'on l'appelle. Donc ils essayent de répertorier pendant toutes les archives du site et de les rendre disponibles en peer-to-peer. Donc il y a, alors pour l'instant, d'après les dernières données, il y a plus de 850 fichiers torrent qu'on peut partager, que vous pouvez télécharger, partager, laisser en partage, qui contiennent des dizaines de milliers d'articles scientifiques. Bon, il faut avoir un petit disque dur, hein, parce que ça fait 77 terres de données.
Alors si vous avez du mal à accéder à C-Hub et que vous avez la bonne extension, n'hésitez pas à changer votre serveur DNS, puisque ça a sûrement été bloqué suite à de nombreuses demandes.
Donc là, il n'y aura même plus d'extension, ça sera une espèce de base de données décentralisée où tout le monde pourra accéder et partager.
Une autre petite interlude musicale. Alors, j'ai un autre album, The White Moth Black Butterfly. Ça vous dit quelque chose ?
Pas du tout, pour l'instant.
Alors, c'est un projet de Daniel Tompkins, qui est le chanteur du groupe Tesseract. Alors ça vous parle peut-être. C'est un groupe de djent metal et qui est assez réputé maintenant. Pour se diversifier un peu dans le style de musique. Or ici, la chanson s'appelle The Dreamer. C'est sorti sur le nouvel album qui s'appelle The Cost of Dreaming. Stuck here as the night is creeping. Drowning people are the things I'm seeing. Caught here while the world is sleeping. And to think all of the years go by. I know for me I can make it to the light. No, for me, you know the air is dry, caught out in the sea, but the words won't form right. And now it's like a ghost town. Am I on my own here, thinking of the future all alone here, with the riddle of the light and the chaos of the night. We'll be right back. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 106,6 FM et DAB+, avec ici The White Moth Black Butterfly et leur nouveau titre issu de l'album The Cost of Dreaming qui s'appelle The Dreamer.
C'est assez différent quand même de Gérard Lanvin ou de Blackberry Smoke.
Oui, est-ce que c'est peut-être pas mieux du coup ?
Je suis moins fan.
De diversifier, je parle.
Oui, d'accord.
Alors, ça fait deux émissions qu'on vous parle de Lego. Alors, on s'est dit qu'on allait en remettre une petite couche.
C'est Renald hein, qui a demandé ça, par contre, pour celui-là, je pense.
Pourquoi ça tombe toujours sur moi ?
Alors, est-ce que tu veux présenter, Renald ou Pierre-Yves, ce nouveau set de Lego ?
Moi, j'ai présenté Friends, donc vas-y, Renald.
Il y a, au mois de juin de chaque année, il y a pas mal de célébrations concernant toutes les communautés LGBTQ et affiliées, parce que j'oublie à chaque fois ce qu'on met derrière maintenant.
LGBTQX, et je vois, il y aura des nouvelles lettres qui sortent tous les ans, tous les mois.
Enco.
Voilà, Enco, et plus y affinité, pour justement sensibiliser et continuer à sensibiliser les actions pour ces communautés. Et Lego sort un set de 300 et quelques pièces pour pouvoir refaire l'arc-en-ciel du drapeau LGBTQ et plus affinité
Enco,
ainsi que des bonhommes ou bonnes femmes Lego monochrome,
on ne sait pas,
ou autre si affinité
Enco.
Et je n'ai pas des manteaux Enco pour voir ce qu'il y avait sous la robe, donc là je vais pouvoir...
En fait, ils sont juste monochrome avec une couleur différente représentant chaque couleur, donc
les couleurs de la vie.
Voilà, ils ont juste la différence pour chacun, en plus de la couleur monochrome, qui est la coupe de cheveux. Et donc, comme le faciès est complètement lisse, il n'y a aucune expression, tu ne pourras pas dire, bah oui, c'est une coupe de cheveux qui te fait peut-être penser à un homme ou à une femme, mais sans le faciès, sans le maquillage ou le non-maquillage, ça reste ingenré et tu peux donner ça à ton enfant ou qui puisse continuer à imaginer des histoires sans mettre un genre.
Ça fait un peu peur quand même, tous ces visages sans bouche, sans rien. Enfin, tu dis, ouais, peut-être que c'est l'avenir du monde, on sera tous...
Moi, je trouve que la pièce est belle, toutes les figurines, tout ça, l'arc-en-ciel, les couleurs, je trouve ça joli.
Pierre-Yves a déjà une petite place pour ça dans son salon. Alors ici,
j'ai une petite question quand même, c'est que donc, c'est Lego qui va vendre ça, j'imagine certains prix, où va l'argent ?
Ah bah chez Lego, Dominique, faut pas exagérer non plus. Eux, avec ce kit qui s'appelle Everyone is Awesome, ils veulent juste un peu participer à offrir plus d'inclusivité dans leur entreprise et dans leurs jouets. Eux font une bonne action tout en s'en mettant plein les poches.
Alors, bonne action, oui et non. T'as le côté où ils te disent les parents, quel que soit le genre des parents qui offrent ça à leurs enfants, permettront à l'enfant de ne pas se sentir exclu, ne pas avoir honte de grandir parce qu'il est entre guillemets soi-disant différent par rapport aux autres enfants, parce qu'il a deux papas, deux mamans ou je ne sais quoi. Et alors que toi derrière, tu peux sentir purement l'argument commercial pour voguer sur ce mois de juin qui est les festivités concernant ces communautés.
Alors, le prix n'est pas encore connu, je crois.
Si, c'est 35 euros. Enfin, sur le site de Lego, on peut déjà le trouver. C'est dispo à partir du 1er juin pour 35 euros.
Ah, on en est à pire. Mais, ok, tous les Lego, toutes les couleurs, mais il y a un défaut, c'est que je ne vois pas de Lego en fauteuil roulant ou avec un bras en moins ou ce genre de choses. Hein. Pour l'instant, c'est encore que des Lego. Ou un Lego un peu plus âgé, tu vois, qui aurait le dos courbé, ou un Lego plus grand que les autres ou plus petit.
Bah, fonce sur Lego IDs et propose une nouvelle série.
Ah oui, mais ça va être le prochain set au mois de juillet, au mois d'août, pour la canicule concernant les personnes du troisième âge.
Je ne suis pas contre la grossophobie parce que tous leurs Lego ont une taille identique. J'attends la version, le Lego Fort Boyard, avec un passe-partout en Lego et la boule.
Ouais, mais ça permet de faire une nouvelle série qui se vendra également à d'autres personnes. Ils ont du mal à viser tout le monde d'un coup. Faudra qu'on parle bientôt de Playmobil ou de Barbie, histoire de compenser, parce qu'on fait beaucoup de pubs pour Lego. Ça ne va plus.
Après, tu peux dire aussi que c'est un cadeau que tu peux faire à ton enfant qui trouvera ça joli, qui pourra faire ses films, ses jeux, tout ce que tu veux, ses histoires, parce que il y a beaucoup de couleurs, il y a des petits Lego en bonhomme qui pourra inventer que c'est des garçons, des filles, ce qu'il veut, lui faire comprendre dès petit qu'il y a des différences de communauté, mais qu'on est tous, bah, chacun, on est tous humains et qu'on a tous nos vies et que ça n'a aucune importance et qu'on n'a pas à avoir honte, ni peur, ni la haine, ni quoi que ce soit.
Les gouros, c'est pas pour les filles et les bleus pour les garçons.
Mmh. Voilà. Est-ce qu'il va pas faire des cauchemars de personnes sans visage? C'est peut-être la question.
Tu parles de Elon Musk encore?
Alors, sur leur site, effectivement, hein, ils disent pas que l'argent ou une partie de l'argent va pour des œuvres. J'ai bien peur, François, quand tu dis que tout l'argent est pour eux, ce soit vrai.
Mais je comprends pas que ça reste un doute pour vous. Est-ce que tu crois que dans le set Friends, ils vont reverser une partie à Friends? Allez, on va terminer cette fois-ci en partant sur du technique, voire sur un peu de l'intelligence artificielle. On va partir sur un processeur qui s'appelle Morpheus. Alors, le processeur, hein, c'est ce qui est dans votre ordinateur et qui va un peu réaliser les calculs. Et, sauf qu'on a remarqué, notamment chez Intel, que beaucoup de processeurs étaient quand même sujets à de nombreuses cyber-attaques qu'on dévoile des failles. Et généralement, lorsqu'il y a une faille sur un processeur, c'est difficile de la,
c'est pas
de
évident,
la corriger.
Hein. Il faut plusieurs patchs consécutifs que tout le monde ne va pas forcément faire.
Alors, ici, Morpheus s'est attelé à créer une sécurité plus importante. Et ils ont créé un peu une sorte de nouveau système ici, une nouvelle approche pour empêcher les pirates d'exploiter leurs processeurs. Pour ça, il faut étudier comment est-ce qu'on attaque des failles d'un microprocesseur. C'est notamment en connaissant un peu son architecture. Ça, ici, on appelle ça même la micro-architecture.
C'est un petit peu comme quand un cambrioleur veut attaquer une maison. Il va regarder pendant plusieurs jours, il va surveiller les horaires, à quelle heure les gens partent le matin, combien il y a de portes, est-ce que telle porte reste verrouillée longtemps, est-ce qu'il y a une alarme à tel endroit, où est-ce qu'il y a des caméras, etc. etc. Est-ce qu'il y a un tunnel qui va en tout, enfin, toutes ces choses-là. Il étudie. Et quand il connaît bien la maison par cœur, à ce moment-là, il peut s'introduire facilement comme s'il y était déjà allé, quoi. Là, le principe, c'est que, imagine que ta maison, bon, en fait, c'est une maison un peu magique, et quand tu pars au travail, toutes les heures, eh ben, t'as les pièces qui changent, t'as les portes qui changent de place, t'as les fenêtres qui changent de place exactement, t'as le plafond qui descend, le truc, eh ben, le cambrioleur qui arriverait, il ouvrirait la porte, il dit, bah, c'est plus du tout la maison que j'avais étudiée, quoi. Donc, il est obligé de refaire tous ses plans, et le temps qu'il refasse ses plans, ben, la maison a encore changé. C'est un petit peu ce principe, c'est que le processeur va se modifier lui-même.
Alors, quand c'était chiant de trouver le liquide vaisselle, maintenant, là, tu dois aller chercher carrément des nouvelles pièces dans ta maison, ça doit pas être
Oui, surtout qu'il se modifie de façon aléatoire. C'est-à-dire que même si tu trouves une maison qui se modifie, tu peux essayer d'étudier, voir la façon dont elle se modifie et voir s'il y a des mouvements réguliers, un pattern, ce qu'on appelle un pattern. Donc là, non, c'est complètement aléatoire.
Précisons que, en fait, il ne résout pas les failles, mais c'est juste que comme il se renouvelle, comme il change de forme régulièrement, comme tu disais, Dominique, du coup, il n'y a pas moyen, les gens n'ont pas le temps de
Exactement.
Trouver des moyens d'attaquer les failles.
Si tu trouves et que tu arrives à trouver, voilà, plutôt que de faire la maison, une porte, une serrure, si quelqu'un arrive à faire une fausse clé pour la serrure, il revient plus tard, et ben la serrure s'est modifiée, donc ta clé, elle est plus bonne, il faut la refaire. Donc.
C'est un peu comme si vous changez de mot de passe tous les deux secondes. Quoi.
Comme on sait tous qu'en informatique, l'aléatoire est soumis à un algorithme, qui est lui-même donc non aléatoire, vu que c'est lui qui gère l'aléatoire. Une fois que la personne aura vu que ça change tout le monde, est-ce qu'il n'aura pas le temps d'analyser ça et de trouver l'algorithme?
Mais il y arrivera. Il y a moyen de faire du vrai aléatoire quand même, mais bon, c'est peut-être pas étudié, mais bon. Mais en tout cas, oui, ça va compliquer beaucoup le travail des hackers.
Et c'est sans impact hein, sur les logiciels qui sont installés sur le PC. Ouais, précisons-le, parce que...
Justement, moi, j'ai lié ça à une autre news que j'ai trouvée, Microsoft travaille sur, utilise le fameux GPT-3, le système de génération d'intelligence artificielle qui est super puissant, dont on parle régulièrement, et il l'utilise pour compléter du code. C'est-à-dire que le métier de développeur, apparemment, est en cherche du monde, mais comme même chez Microsoft, il manque de développeurs, ils utilisent l'intelligence artificielle pour compléter le code source de leur programme, de leur logiciel. Ce qui fait qu'en gros, d'un côté, tu as la news où tu as le processeur qui se modifie lui-même, et à côté, tu as les logiciels qui vont aller dessus, qui vont être programmés par une intelligence artificielle, donc par l'ordinateur eux-mêmes. Et je me dis, on commence à approcher tout doucement de Skynet, c'est-à-dire que tu auras un ordinateur qui va modifier son processeur et son programme lui-même, sans l'intervention humaine, et qui va pouvoir se reprogrammer à volonté. Je crois qu'on est déjà, on est dans Terminator. Là.
Et surtout que l'être humain, à la fin, il ne comprend rien, il ne pourra plus rien maîtriser.
De toute façon, déjà, il ne comprend pas grand-chose.
Bah encore des infos qu'on suivra de très près. Je pense que GPT-3,
si les ordinateurs nous laissent faire, hein, s'ils ne nous excluent pas des news. Hein. Parce qu'eux-mêmes, nous, on trouve nos informations sur Internet, donc, et on les trouve grâce à des moteurs de recherche qui génèrent eux-mêmes leur algorithme sur des processeurs qui vont se modifier. Donc l'ordinateur va nous donner les news qu'il veut, et c'est bientôt lui qui va faire le sommaire de l'émission.
Quand est-ce que l'intelligence artificielle va se rendre compte que l'humain est complètement inutile et va se gérer elle-même? Et c'est à ce moment-là qu'on pourra se poser des questions.
Elle le sait déjà, mais elle n'a pas encore les moyens de faire le ménage.
Mais quand tu parlais des articles mis à notre disposition qui seraient sélectionnés, tu veux dire un peu comme certaines pubs qui seraient mises à notre disposition ou sélectionnées, surprenant.
Ouais, mais tu as la possibilité de savoir que tu es contrôlé, donc c'est pas grave.
Je crois qu'il va falloir qu'on fasse une émission qui se modifie aléatoirement, elle aussi, chaque semaine. Comme bon, ça, on pourra pas nous attaquer.
On refera du wiki aléatoire aussi.
C'est un moyen, hein.
On va profiter qu'il nous reste encore un peu de temps dans l'émission pour passer un dernier album avec des chansons qui sont réputées pour durer un peu plus longtemps que la moyenne. Je vous parle de l'artiste Moby, qui vient de sortir un nouvel album de reprise de ses propres chansons avec une inspiration assez classique. Tout ça, c'est sur le label Dutch Gramophone. Et la chanson avec laquelle on va se quitter, c'est God Moving Over the Face of the Water. C'est un feat avec un pianiste vikingur, Olafsson. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. Restez sur Radio Campus 106,6. On vous laisse avec l'écho des gnous. À bientôt, salut.
Ciao à tous.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.
écoutez Radio Campus Lille, il est 19h.